Bien. Alors, vous savez, un jour d'élection municipale aujourd'hui, les candidats ont défendu leur projet, défendu leur vision de la société. Et les journalistes ce soir vont faire les comptes pour nous. Quel est le camp qui a gagné? Quel est le parti qui a progressé? Et voilà. Je remarque que il y a 2000 ans, le christianisme a commencé et puis il a progressé dans le monde. Et semble-t-il, d'après moi, je n'ai pas fait le compte, je ne fais pas la comptabilité, mais les sociologues disent que le christianisme progresse toujours, tantôt dans une région, tantôt dans une autre, tantôt de façon visible, tantôt de façon invisible. On constate le progrès de l'Évangile. Il y a 60 ans de ça, en 1966, John Lennon a dit que il se considérait comme plus célèbre que Jésus-Christ de son temps. C'est la vision qu'il avait des choses. 60 ans sont passés et je dois dire que la personne aujourd'hui qui a le plus de followers, celui qui reçoit le plus de likes, celui qui a le plus d'influence, ça reste Jésus-Christ. Il est au top du top. Il est celui que les gens aiment et que de plus en plus de personnes aiment. Pourquoi cela? Pourquoi l'Évangile n'a cessé de progresser depuis 2000 ans, qu'il s'est répandu dans tous les continents, dans toutes même les endroits les plus reculés? Même les endroits les plus isolés comme Figeac, l'Évangile est venu jusqu'ici. Alors on va regarder maintenant ensemble comment cela s'est passé en lisant le livre des Actes. Comment cette chose peut se produire que l'Évangile avance. Alors le titre du message est celui-ci. Comment rien n'arrête l'avancée de l'Évangile. Et on va lire ensemble pour cela le livre des Actes, chapitre 5, versets 12 à 42. Ce sera le passage d'aujourd'hui. Actes, chapitre 5, versets 12 à 42. Comment rien n'arrête l'avancée de l'Évangile. Je lirai, on va lire partie par partie pour faire durer le suspense, parce que c'est un livre narratif, et il se passe des choses. Alors on va lire les premiers versets à partir du verset 12, acte 5, 12 à 16. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir des malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades, des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ce passage, je l'ai nommé la crainte de Dieu, sert une évangélisation irrésistible. La crainte de Dieu au service d'une évangélisation irrésistible. Qu'est-ce qui s'est passé en effet juste avant ce qu'on a vu la semaine dernière? Dieu a purifié son Église en retirant Ananias et Saphira, deux personnes qui étaient là dans l'Église et qui mentaient. Et qui mentaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc ils sont morts, ils sont décédés là, devant toute l'assemblée. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelle était la dernière phrase qu'il nous a laissée? une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Est-ce que la progression de l'Évangile va être stoppée par ce couperet, en quelque sorte, qui est tombé, que Dieu a fait tomber dans l'Église de Jérusalem? Eh bien non. Au contraire, la manifestation de la sainteté de Dieu dans son Église a eu l'effet inverse. On voit que l'Évangile a continué de se répandre. Dans une Église purifiée, Dieu se manifeste. Dans une Église purifiée, Dieu se manifeste. Et on voit que ce n'est plus seulement Pierre et Jean qui prennent la parole au temple, mais on voit que l'ensemble des apôtres d'un commun accord, ils se rendent au temple, là où Pierre et Jean avaient prononcé leur discours qui avait valu cette interdiction de parler de Jésus. Là même, ils prennent la parole et ils accomplissent des prodiges, des miracles, exactement ce qui s'était passé quelque temps avant avec Pierre et avec Jean. On peut noter également que ce sont les 12 qui font des prodiges et des miracles. Je vais y revenir juste un petit peu après. En tout cas, ils sont plus 2, mais ils sont 12 maintenant. Exactement l'inverse de l'effet que recherchaient les ennemis de l'Évangile. On remarque aussi, donc ils font des signes miraculeux et des prodiges. Et on voit qu'ils se tenaient donc d'un commun accord au portique de Salomon. Il y a un enseignement où, je pense, dans ce commun accord, l'Église était unie. Ils étaient ensemble, ils étaient dans un commun accord. Et vous savez ce qu'a dit le Seigneur Jésus, « Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et quand on s'aime, le minimum, c'est de s'accorder. Jean 13, 34. Les premiers disciples sont des modèles d'unité. Voilà, si on parcourt le début du livre des Actes, je vous fais les citations de tous ces passages qu'on a vus. Acte 1, 14. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et acte 4, 24, après que Pierre et Jean leur rapportaient cette nouvelle, que l'Évangile, on leur interdisait de parler de Jésus, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, d'un commun accord. On parle parfois de l'œcuménisme en disant, voilà, il faut que les chrétiens se rassemblent et... Ce n'est pas de l'économisme qu'il s'agit ici dans notre texte. Ils sont en effet reçus tous un même esprit, unis par un même esprit. Et ils sont tous nourris par le un même enseignement, l'enseignement des 12 apôtres. On a une Église qui est vraiment unie. Ce n'est pas des efforts humains, du christianisme qui va certaines parties du christianisme vont un peu se mélanger quand les siècles vont passer avec ce qui n'est pas des personnes qui ont reçu l'Esprit Saint. Là, ce qui les unit, ils ont tous reçu l'Esprit Saint et ils ont tous reçu un même enseignement. Ils sont unis. L'unité des croyants sert à l'évangélisation. L'unité des croyants sert à l'évangélisation. La bonne réputation de l'Église sert également à l'évangélisation. Le peuple les tenait en grande estime. Personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Donc, de tout le nombre qui était là, seuls les apôtres étaient devant, seuls les apôtres faisaient les miracles. Mais il y avait tous les disciples qui étaient là, et tout ce groupe de disciples, toute cette église, le peuple les tenait en grande estime. C'est vrai que c'était dangereux d'être là avec les apôtres. Il y avait cette interdiction. Il fallait être courageux. Tout le monde n'est pas appelé à la même chose dans l'église et tout le monde n'est pas avancé de la même manière dans la foi. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, qui étaient, comme on dit, des nouveaux convertis et qui ne connaissaient pas la personne de Jésus comme les apôtres qui avaient passé plusieurs années avec elle le connaissaient. Chacun a un avancement différent de la foi, chacun a un ministère différent également dans l'Église. Mais si les apôtres sont en première ligne, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Il y avait là tout un groupe de frères et de sœurs qui les accompagnaient. Et ces frères et sœurs, il est dit, ils étaient tenus en haute estime. Tous les chrétiens ne font pas des miracles. Tous les chrétiens ne font pas des miracles. Mais chaque chrétien est responsable de la bonne réputation de l'Église. Cette bonne réputation de l'Église travaille, sert à l'évangélisation. On voit également que les villes voisines vers Jérusalem, il y a des gens qui accourent là, des villes voisines vers Jérusalem. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Et on voit ici que l'église de Jérusalem déborde de Jérusalem. Elle attire d'autres personnes. Mais est-ce que c'est là déjà l'accomplissement de ce que Jésus avait prévu? Non, chaque chose en son temps. On verra par la suite l'implantation. Là, il n'y avait qu'une église à Jérusalem. Comment il y a eu d'autres implantations d'églises et comment le témoignage d'église va s'installer un petit peu partout dans la Judée et plus loin au fur et à mesure qu'on avancera dans ce livre. La progression de l'évangile est planifiée. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est aux commandes. La section suivante, le paragraphe suivant, verset 17, bien sûr, il va se passer quelque chose, 17 à 21. Alors, le grand prêtre, tout ce qui était avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Il les fit sortir et il leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Alors, on n'est pas surpris de la réaction des Sadducéens quand on connaît l'histoire, les chapitres qui précèdent. Ils avaient déjà arrêté Pierre et Jean, ils leur avaient entendu de parler de Jésus, et là, bien sûr, ils les saisissent, donc ils étendent la main sur eux, on peut imaginer de les attraper comme ça. Ils envoient la police, une religieuse, je ne sais pas comment ça s'appelait, les serviteurs là qui étaient là du temple, et hop, ils leur mettent le grappin dessus, et en prison, direct, en prison. Mais Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle, et un ange est envoyé pour faire sortir les apôtres de prison. Alors, c'est certainement une expérience incroyable à vivre, de voir voilà, les portes de la prison qui s'ouvrent et puis qui se referment derrière, et puis on part, on passe comme ça, et on est mis en liberté. Dieu fait ce qu'il veut. Quelle incroyable expérience! Peut-être on pourrait être tenté de penser, mais ça c'est dans l'ancien temps. Maintenant, ça se produit plus ce genre de choses. Hein, il faut croire que si. Notre frère Karim m'a dit qu'il travaille auprès des musulmans. Pas plus tard que cet automne, il a témoigné d'avoir vu la protection des anges quand il faisait de l'évangélisation à Genève, au bord du lac. Et il y avait là beaucoup de musulmans qui venaient, je crois que c'était le dimanche après-midi, et qui se promenaient. Et là, ils avaient choisi cet endroit pour évangéliser. Et là, il y avait des musulmans là, qui n'étaient pas contents, enfin des intégristes, c'était des terroristes, hein, qui n'étaient pas contents. Et donc, il y en avait un qui avait payé l'autre, un professionnel sans doute de promettre de la zizanie. C'était ça, hein.
Je crois me souvenir.
Oui. Hein, c'était ça. Et cette personne a été pour faire du trouble, faire des scandales. Et puis, elle est revenue et elle n'a pas pu aller. Et donc, la personne l'a renvoyée une nouvelle fois. Mais vas-y, écoute. Et puis, il a été une nouvelle fois. Et puis, il a regardé un petit peu. Et puis, il est revenu. Il a dit, non, 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 moi, j'y vais pas. Toi, vas-y. Et il a dit, mais pourquoi tu veux pas y aller? Non, 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 moi j'y vais pas, toi vas-y. Et on a appris plus tard, et je crois que c'est cette personne-là qui a été témoignée à ces chrétiens plus tard, qu'il n'avait pas pu venir parce qu'il avait vu là, tout autour de ce groupe de chrétiens qui témoignaient, il avait vu des anges qui les protégeaient. Personne ne voyait les anges, mais lui les avait vus. Et ça l'avait complètement empêché de faire quoi que ce soit. Dieu avait protégé ses témoins et Marie, il avait vécu ça. Donc, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle et Dieu est toujours le même. Amen. Amen. Donc, la mission continue. La mission continue, mais on voit avec un léger changement ici. Hein. Vous avez remarqué que dit l'ange, allez-y, revenez au temple, annoncer toutes les paroles de la vie nouvelle. Il y a comme un petit changement là, parce que maintenant, il n'est plus question de guérison, il n'est plus question de prodige, il est question de se focaliser sur l'annonce de la parole de Dieu, l'annonce de la vie nouvelle. L'annonce de la vie nouvelle. Le vrai besoin du peuple est d'avoir la vie qui vient d'en haut, la vraie vie. Hein. Paul écrira des années plus tard, la foi dans le Seigneur vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ? J'ai fait quelques petits versets pour nous, il y en a bien d'autres. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il parle juste avant d'avoir une nouvelle naissance à cette vie. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, la vie avec Dieu pour toujours. Il ne vient pas dans le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 6, 48. Je suis le pain de vie, dit Jésus. Jean 10, 9 à 10. Jésus dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis et la vie, et qu'elle l'est en abondance. Jésus promet une vie abondante, qui commence ici-bas et qui se prolonge jusque dans l'éternité. Jean 14, 6, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en pensant par moi. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncer au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Que Dieu nous donne la bouche pour parler aux gens de cette vie dont ils ont besoin, auquel ils aspirent une vie nouvelle, un nouveau départ, le pardon de nos fautes et se savoir aimé et accueilli par Dieu en Jésus-Christ. C'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père que par moi. La mission continue, mais avec un léger changement de consigne. Dieu est souverain. Voilà. Ça va être un petit peu différent maintenant. Et donc, le résultat, c'est une obéissance zélée pour l'évangélisation. Une obéissance zélée pour l'évangélisation. Bien sûr, cela sert l'évangélisation. Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Ils n'ont pas rentré chez eux, ils n'ont pas été boire le café, et après aller au temple, non. Direct, de bonne heure, ils ont été libérés et ils ont été directs. Et qu'est-ce qu'ils font là dans le temple? Vous le lisez comme moi. Ils se mirent à enseigner. Ils se mirent à parler de cette vie d'en haut. Des disciples qui sont zélés, une obéissance zélée sert l'évangélisation. Une obéissance zélée sert l'évangélisation. Les apôtres obéissent sur le champ. Il ne s'agissait pas de sortir de prison pour rentrer chez soi, à l'abri, tranquillement, loin de la fureur des chefs religieux. Il s'agissait de revenir à l'endroit même où on leur avait mis le grappin dessus. C'était ce que Dieu avait prévu. Voyons la suite. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin, l'instance qui dirigeait le peuple juif à l'époque, et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils firent ce rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montèrent perplexes, se grattèrent la tête, donc, ne sachant que penser de cette affaire. Verset 25, quelqu'un vient leur dire « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » La joyeuse obéissance à Dieu triomphe de la peur des hommes peureux. La joyeuse obéissance à Dieu triomphe de la peur des hommes peureux. Dieu a de l'humour dans ce texte. La Bible nous laisse savourer le récit de ce qui s'est passé quand les autorités sont allées chercher les apôtres dans la prison. Une belle histoire pour raconter aux enfants. Le Saint-Esprit qui a inspiré Luc a utilisé beaucoup de précieux parchemins pour nous faire un récit détaillé de ce qui s'est passé. Ça fait un bon récit pour raconter une histoire aux enfants avant de dormir le soir. Dieu ne manque pas d'humour. Hein? Une histoire pour vous faire rire. Ouais, pour qu'on soit heureux. Et le parchemin, la parole de Dieu ne sert pas qu'aux théologiens. Il sert aussi aux enfants. Il sert aussi à nous réjouir et à rire. Il y a tellement de situations qui sont comme ça. Et on a fait dernièrement le livre des rois et on avait trouvé aussi des situations qui étaient tellement, tellement drôles. Dieu a de l'humour. Mais plus sérieusement, quand on a la crainte de Dieu, quand on n'a pas la crainte de Dieu, on a la crainte des hommes. Ce sont les apôtres qui devaient avoir peur du puissant Sanhédrin. Mais en fait, c'est le Sanhédrin qui a peur. Il a peur de qui? Il a peur de quoi? Il a peur de la vérité. Il a peur de la vérité. Ils sont coupables. C'est eux qui ont fait condamner Jésus. Il n'y a pas photo. Mais ils ont peur de cette vérité-là. Et ils ont peur du peuple. Ils étaient arrivés à monter le peuple contre Jésus quand il s'agissait de faire le choix entre Jésus et Barabbas. Et maintenant, ils ont peur que ce même peuple se retourne contre eux maintenant. Des hommes peureux, au final. Alors, que Dieu nous garde de la crainte des hommes. Et pour ne pas avoir la crainte des hommes, comme les apôtres, il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu délivre de la crainte des hommes. Et j'ai rajouté donc de ces hommes qui sont eux-mêmes craintifs, qui sont eux-mêmes heureux. Vraiment, gloire à Dieu, merci de nous avoir donné la crainte de Dieu. Ces hommes courageux servent à l'avancement de l'Évangile. Les hommes courageux servent à l'avancement de l'Évangile. Nous ne pouvons pas annoncer ce que nous avons vu et entendu, avait dit Pierre déjà quand ils étaient devant ce même, Pierre et Jean, quand ils étaient devant ces mêmes chefs lors de la première arrestation. Et leur discours ne va pas changer, ils vont être sur les mêmes annonces. Ils annoncent des faits irréfutables qui auraient dû amener simplement les responsables à la repentance. Il n'y avait pas la seule chose qui était demandée, c'était de se repentir et de croire dans ce Messie qui avait été rejeté précédemment. Mais comme lors des précédentes prédications, les précédentes annonces, il n'y aura pas de repentance. La première fois, ils avaient proféré des menaces, et cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Voyons la suite de notre texte maintenant, versets 33 à 41. Furieux des paroles des apôtres, donc, ils voulaient les faire mourir. Il voulait les faire mourir. Mais, verset 34, un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tous les peuples, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Et il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Théudas est apparu, il prétendait être quelqu'un. Et environ 400 hommes se sont reliés à lui. Il a été tué. Tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort. Et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, ils appelèrent les apôtres, ils les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Le plus ancien texte, certainement le plus ancien texte de la Bible, le livre de Job, dit ceci. La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. En effet, la sagesse de Dieu est au service de l'évangélisation. La sagesse de Dieu est au service de l'évangélisation. C'était Job 28, 28. Cette fois, Dieu ne va pas utiliser un ange pour sauver ses apôtres. Il ne va pas utiliser un ange, il va utiliser une personne même qui se trouve là, parmi toutes ces gens qui veulent les tuer. Une personne sage, mais une personne qui a la crainte de Dieu. Une personne sage qui a la crainte de Dieu. Toutefois, dans sa sagesse, Dieu va cependant permettre que ses apôtres reçoivent de vrais coups pour la première fois. Ils vont recevoir des coups. Et on le voit, les coups sont aussi au service de l'évangélisation. En effet, les apôtres ressortent joyeux d'avoir reçu des coups. Pourquoi ? Leur foi a été encouragée. Leur courage en sort renforcé de ces coups. En effet, le Seigneur les avait prévenus dès le commencement, sur le sermon de la montagne, tout au début. Matthieu 5, 11, 12 expose clairement cet enseignement de Jésus. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et là, les apôtres, ils se rendent compte qu'ils rentrent dans la prophétie de Jésus et ils ressentent cette joie en eux d'avoir été maltraités à cause du nom de Jésus-Christ. Les coups sont au service de l'évangélisation. Le Seigneur les avait prévenus dans la chambre haute avant de les quitter. À partir de Jean 13, 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi. Vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Je vous dis cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Et un petit peu plus loin, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Les coups aussi sont au service de l'évangélisation. Alors le verset 42 conclut magnifiquement ce passage. Chaque jour, dans le temple, dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. C'est formidable. Les menaces ne peuvent pas stopper la progression de l'Évangile. Les mensonges ne peuvent pas stopper la progression de l'Évangile. Les emprisonnements ne peuvent pas stopper la progression de l'Évangile. Les coups ne peuvent pas stopper la progression de l'Évangile. Et on verra même plus loin que la mort ne peut pas stopper la progression de l'Évangile. Alors soyons encouragés à l'évangélisation. Qu'est-ce qui peut arrêter la progression de l'évangile, d'après vous? C'est quand les chrétiens n'évangélisent pas. Ah. Ça, c'est une bonne raison. Hein? Ouais. Une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui ne fera pas progresser l'avancement de l'évangile. Hein? Ah, on n'y peut rien. Quels sont les ennemis de l'évangélisation? Ben, il y a le péché dans l'église. On l'a vu avec Ananias et Saphira. Il y a le manque d'unité. Il y a la mauvaise réputation. Il y a la crainte des hommes. Et les amis de l'évangélisation, on les voit dans notre texte, le Saint-Esprit, les anges de Dieu, le courage du témoignage, la sagesse. Voilà les amis de l'évangélisation. Alors, ce défi de l'évangélisation est posé devant chaque église de Jésus a sa raison d'être. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et donc les églises témoignent à leur façon, comme ils peuvent, selon leurs moyens. Mais ce passage est encourageant parce que les choses qui peuvent progresser l'avancement de l'évangile, ce ne sont pas des choses qui sont extérieures à nous. Les choses qui peuvent progresser, ce sont les choses qui sont chez nous. Hein. Ça dépend de notre foi, ça dépend de notre vie, ça dépend de, voilà, de la perception de la sainteté de Dieu. Ça dépend de beaucoup de nous. Hein. Il faut bien le reconnaître. Voilà. Mais grâce à Dieu, on participe à ce travail. Et grâce à Dieu, on a nous aussi de la joie. On n'a pas des coups en France, mais on a quand même la joie chaque fois que l'on travaille, chaque fois que l'on continue. Alors voilà, je vous rappelle le petit livre ici, et le petit défi qu'on a de rentrer dans ce travail, mais aussi d'être là et de compter parmi les bons ouvriers pour que le Seigneur, on entende ses paroles quand on sera devant lui, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Reçois beaucoup. Hein. On veut faire partie, nous aussi, de cette église vivante. Hein. Seigneur, oui, merci pour les encouragements de ta parole. Merci parce que la balle est dans notre camp, comme on dit. Et merci parce que le Saint-Esprit est dans notre camp, les anges sont dans notre camp, et parce que quand nous sommes dans le camp de Dieu. Merci pour cette belle unité qui nous est montrée comme exemple. Merci pour ce beau témoignage que portaient nos frères et sœurs de l'époque, et de nous aussi à avoir un beau témoignage, de nous avoir de la sagesse pour savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Donne-nous surtout une belle unité qui te glorifie. Et donne-nous également ce courage qu'ils ont demandé quand ils s'étaient mis tous ensemble pour prier, que de pouvoir témoigner avec assurance, avec pertinence, avec, voilà, Seigneur, ouvre-nous les portes. On est des apprentis. Apprends-nous, Seigneur, c'est toi qui es notre maître. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.